Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'affaire commence en 2010 et se développe dans trois départements, le Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ain. Mais c'est surtout dans l'Ain qu'est repéré ce qu'on appelle le cluster le plus important. Un cluster, si j'ai bien compris, c'est une concentration géographique particulièrement élevée dans un périmètre déterminé. Ici, le périmètre, c'est 17 km et la concentration, c'est le nombre d'enfants nés avec des malformations congénitales, précisément des agénésies transverses des membres supérieurs, ATMS. 8 cas entre 2009 et 2014, à proximité du village de Druyat, 1200 habitants, à 1h30 de Bourg-en-Bresse, quand le risque habituel pour ce genre de malformation est de 1 sur 10 000. 18 autres auraient été repérés dans l'ensemble du département de l'Ain. C'est l'affaire dite des bébés sans bras, même si les malformations concernent les membres supérieurs en général, parfois la main ou le bras, qui ne se sont pas développés à la naissance. Une affaire terrifiante, trouble, encore inexpliquée, mais qui ne cesse de poser des questions scientifiques, environnementales et politiques. Elle interroge aussi les habitants sur leur milieu, leur activité, l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, les champs qu'ils cultivent. Elle divise, elle fait peur. Tout de suite dans les pieds sur terre, nous sommes donc allés dans l'Ain, rencontrer des victimes, mais aussi essayer de comprendre comment vivent les habitants avec cette affaire, ce qu'ils en font, comment ils s'en sortent de la peur et des rumeurs. Une balade entre les dombes et la plaine de l'Ain, entre la centrale nucléaire et l'usine à plastique, les cultures céréalières intensives et les fermes qui passent en bio, signé Olivier Minot, tout de suite dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Élodie, la maman de Grégory, qui est née en 2010 et qui a une agénésie de la main droite. J'ai mis très longtemps à accoucher. Ils ont utilisé les cuillères pour m'aider un petit peu. Et quand ils me l'ont posée sur moi, j'ai dit à mon mari, mais il manque quelque chose, c'est quoi ? Je voyais pas vraiment, j'étais ensuquée un peu, j'étais fatiguée, j'étais... Et je lui disais, mais c'est quoi ? Et là, la sage-femme m'a dit qu'il lui manquait une main. Mon mari est tombé dans les pommes. Ils m'ont dit, mais vous n'étiez pas au courant? Ben non, je savais pas. Et j'ai accouché un dimanche matin, du coup. Mon gynécologue attitré, il est venu me voir le lundi matin en me disant... J'étais sous la douche, donc je l'ai pas vu. Il a entrouvert la porte. Et il m'a dit, ah, on a eu une mauvaise surprise. Ben ouais... Oh bah de toute façon, vous n'auriez pas fait une IVG. Non. Et du coup, il est parti. Je ne l'ai pas revu avant la sortie de la clinique. Et je me suis dit, peut-être qu'il l'a vu et qu'il ne me l'a pas dit. Je me suis dit, il avait peur que je lui dise que je voulais avorter. Et j'ai changé de gynéco, bien sûr. Donc après, ils m'ont pris mon fils le lundi matin, du coup, pour lui faire tous les examens complémentaires. Parce que du coup, à partir du moment où il y a malformation, ils vérifient vraiment tous les organes, voir s'il n'y a pas autre chose. Et donc on est allé avec mon fils, avec la pédiatre, et elle me dit « tout va bien ». Et alors là, je me suis mise à pleurer de... Là, je me suis dit « ça va, quoi, tout le reste va bien, c'est bon, on va gérer, quoi ». Quand je suis rentrée chez moi, je regardais mon fils et je me disais, mais comment il va faire ses lacets? Moi, je voyais mon fils essayer d'attraper de la main droite. Et là, je me mettais à pleurer parce que je me disais, Bichette, il est droitier, mais en fait, il ne peut pas être droitier. J'avoue que je suis restée quand même quelques mois avec ce baby blues intensif. Et mon mari, pendant les 6 premiers mois de vie de mon fils... Il a tout essayé de faire à une seule main. En fait, il avait peur que son fils un jour lui pose une question et qu'il n'ait pas la réponse. Mon fils, il a 9 ans aujourd'hui. Il fait tout. Il fait même ses lacets. Il n'a pas de main, il n'a pas de doigts. Il arrive à serrer ses lacets.
Il ne vous a jamais demandé pourquoi j'ai pas cette main ?
Non, il me demande pourquoi son frère en a deux. Pour moi, la cause, c'est moi. Je suis la maman, je le porte, il est dans mon corps. J'ai dit à mon mari, il y a eu un caca dans le moule, quoi. Et le moule, c'est qui ? Ben, c'est maman. J'ai peut-être mangé quelque chose qu'il fallait pas. Je suis allée en Tunisie, j'ai eu la tourista. Je fumais pendant ma grossesse. Donc j'avais diminué, mais je n'avais pas arrêté. Peut-être que j'ai trop forcé à un moment donné. Peut-être que j'ai... Voilà, on sait pas, en fait. On sait pas. C'est comme ça, quoi. Donc à partir du moment où le docteur Lorrain me dit « J'ai un autre cas, il s'agit de... » et je vais faire remonter, je me dis « Il y a peut-être une chance que ça vienne pas de moi. » Et après, ça va en s'enchaînant. J'entends qu'il y a eu d'autres cas non loin de chez moi, à 1 ou 2 ans d'intervalle, et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et là, je me dis, ouais, il y a quand même un gros problème, quoi. Peut-être que ça vient de l'environnement, les champs, la centrale, l'eau, peut-être. Je veux, s'il y a vraiment une cause, qu'on la trouve. J'estime qu'on n'attend pas 9 ans pour se mettre sur un dossier tel que celui-ci. 9 ans pour réagir sur un problème de santé publique. Je trouve ça honteux. Que Santé publique France fasse enfin son travail.
Quand Élodie m'a raconté le drame de la naissance de son fils, elle semblait maintenant l'avoir dépassé. Aujourd'hui, Grégory a 9 ans, il a un petit frère et il grandit comme presque tous les enfants. Mais ce qui l'a fait vraiment souffrir désormais, c'est l'absence de considération des autorités sanitaires.
Alors je dis pas qu'ils auraient trouvé ou pas trouvé,
car son histoire est devenue une affaire, l'affaire des bébés sans bras de l'un.
Je dis que Docteur Lorrain, le REMRA, ont fait leur job. Pas Santé publique France.
C'est à la suite de la naissance de Grégory et d'un autre enfant avec une malformation identique sur le même territoire que son médecin traitant, le Docteur Lorrain, a alerté le REMERA, le registre des malformations en Rhône-Alpes. Il s'agit d'une association financée par les autorités sanitaires comme Santé publique France. Je me rends donc dans les bureaux de cette association, située dans une ruelle du centre de Lyon.
Je suis Emmanuel Amar, je dirige le registre des malformations en Rhône-Alpes, qui s'appelle REMERA.
Je rencontre Emmanuel Amar, ancienne infirmière devenue épidémiologiste, directrice du REMERA. C'est elle qui sera qualifiée par la presse de lanceuse d'alerte de l'affaire des bébés sans bras de l'Ain. Mais elle refuse ce terme, estimant n'avoir fait que son travail.
À l'époque, c'est en 2010, notre registre, il ne couvre pas le département de l'Ain. C'est un médecin, le docteur Lorrain, qui nous interpelle en disant « Moi, j'ai 2 patientes qui viennent d'accoucher l'une après l'autre d'un enfant sans main, sans bras. » Il y a d'ailleurs une infirmière de la cellule interrégionale de l'épidémiologie de l'Ain qui nous dit « En réalité, il y a 3 enfants. » Sauf qu'à ce moment-là, nos tutelles, Santé publique France et l'INSERM, refusent qu'on aille regarder dans l'Ain. Parce que ça coûte presque 10 000 euros par an de surveillance, de collecte de données, et qu'il n'est pas question de les verser. Et là, on a une super bonne idée, d'après nous. On se dit, bah, puisque l'Ain a la même démographie que la Savoie, et qu'en Savoie, il ne se passe pas rien d'anormal, si on parle en termes comptables à ces agences, peut-être qu'elles vont nous entendre. On va leur dire, tiens, on va échanger la Savoie contre l'Ain, ça ne va rien vous coûter. Et là, elles disent, d'accord, banco, allez-y. Là, coup sur coup, 2 nouveaux enfants naissent avec cette malformation. Donc, on est arrivé à 5. Et on s'aperçoit que ces 2 nouveaux enfants qui naissent avec ce type de malformation naissent, encore une fois, dans le même périmètre que ce que l'on avait observé. Donc, on interroge les mères. Et rien ne sort, rien ne sort. Aucun des facteurs de risque habituels n'est retrouvé. Elles ne prennent pas de médicaments particuliers, elles n'ont pas d'antécédents particuliers. Elles ne prennent pas, par exemple, des drogues de type cocaïne qui sont des coupeurs de vaisseaux, rien. Et donc, à ce moment-là, on pense qu'il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire à l'investigation. Et pour ça, ce n'est plus au registre de le faire, mais aux autorités de santé. Et c'est là où on se heurte à un mur. En 2016, je vais rédiger un éditorial qui s'appelle « Quand un agrégat de malformations rencontre une agence de santé publique ». Qu'est-ce qui se passe ? La réponse est « Si vous publiez, vous aurez une plainte en diffamation ». C'est publié, il n'y a pas de plainte en diffamation. En 2017, l'INSERM arrête son financement et la région aussi. On n'a plus rien, on est étranglé, on continue notre travail, malgré tout, grâce au soutien des Hospices Civils de Lyon. Et c'est grâce à eux qu'on tient 2017. Et en septembre 2018, dans un article du Monde, il est écrit que si le financement du registre cesse, avec lui disparaîtront les signalements, les alertes sur les anomalies de fréquence et de répartition des malformations. Et c'est ça qui va déclencher la réponse de Santé publique France, qui dès le 4 octobre 2018 va faire une conférence de presse en disant « Nous avons tout étudié, les familles qui n'ont jamais vu personne, nous avons tout étudié, il n'y a rien, il n'y a pas d'excès de cas dans l'un, et il n'y a pas de cause possible à trouver, parce que ça reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. » Jusqu'à ce que notre ministre, Agnès Buzyn, vienne à la radio RTL, je l'interroge et je lui dis « Voilà madame, nous allons être licenciés, nous avons reçu notre lettre de licenciement, aucune étude va être faite, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Et là, elle répond, elle prend ses responsabilités de ministre, elle assume son rôle et elle dit « Il n'est pas question de fermer le registre, donc nos licenciements sont suspendus, d'une part, et d'autre part, il n'est pas question de rester sans réponse, nous devons faire une enquête. »
Au moment où Emmanuel Amar me raconte son combat pour que les autorités sanitaires s'inquiètent de cette affaire, on ne connaît pas encore les résultats de l'enquête. Mais en plein cœur de l'été, le couperet est tombé. L'agence de l'État Santé publique France publie un rapport niant l'existence d'une surprésence de malformations dans l'Ain. L'agence de santé publique refuse de prendre en compte deux cas de malformations, celui de Grégory, le fils d'Élodie, et un autre. Au motif qu'à l'époque, le reméra d'Emmanuel Amar n'était pas habilité à relever les malformations dans l'Ain. Et pourtant, comme elle me l'a expliqué, ce sont ces deux cas qui l'ont motivé à couvrir le département et à lancer l'alerte. Aujourd'hui donc, seuls trois cas dans le Morbihan vont être soumis à des études plus approfondies. Dans l'Ain, l'affaire est terminée pour les autorités. Les familles restent sans explication, la population est laissée à ses propres interprétations, parfois des plus farfelues.
J'ai retrouvé trace dans un traité de médecine du 19e siècle où il est question d'un médecin qui est aussi pasteur en Angleterre qui parle de son épouse qui se trouve dans une calèche. À ce moment-là, à l'arrêt, il y a un mendiant qui tend son moignon de bras pour faire la manche. Elle est horrifiée par ce bras qui lui arrive. Quelques temps plus tard, elle donne naissance à un enfant sans bras. Le mari est médecin. Et pourtant, il va rapporter cette observation qui est complètement contraire à tous les acquis de la science même de l'époque. Et pour autant, c'est publié et il pense qu'il y a là un lien. La nature a horreur du vide et qu'à partir du moment où on a quelque chose qui nous surprend, qui nous étonne et même nous traumatise, on va obligatoirement essayer de lui donner du sens.
France Culture, les pieds sur terre.
Bonjour, excusez-moi. Je fais un petit reportage aujourd'hui dans le coin par rapport à l'histoire des bébés sans bras.
Oui, ils ne savent pas de quoi ça vient. Il paraît que, bon, à ce que j'ai entendu, quand ils en ont parlé, ça venait d'une fontaine qui était polluée, que les mères buvaient.
Je n'ai pas trouvé la fontaine empoisonnée.
Je ne sais plus où.
Et pourtant, j'ai sillonné les petites routes de cette région.
Oh, c'est pas loin.
Je connais assez bien ce coin, puisque j'ai grandi à une vingtaine de kilomètres de Druya.
Bah, moi, je vous dis que c'est de la connerie, parce que moi, il y a 60 ans que je suis à Druya, j'ai jamais vu un gamin qui est né sans bras.
Le village épicentre du périmètre des naissances.
Et puis, je vais dire que des malformations, soit d'une sorte, soit d'une autre, il y en a toujours eu et il y en aura toujours.
Nous sommes donc dans l'Ain.
C'est du pipeau ou quoi, enfin, disons, c'est la centrale, non ?
Entre la plaine et sa centrale nucléaire.
J'avais eu peur quand on a eu l'échographie 3D. C'est la première chose que j'ai regardée, si elle avait tout.
Les dombes.
On verra
ces étangs,
quand il n'y aura plus de pesticides.
Et ces cultures céréalières.
Parce que les gens qui arrachent l'herbe à la main, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui.
Pas loin de la Plastique Vallée.
Je sais que nous, on a des grosses usines.
Avec ces usines, nous relons nos éabons.
Déchets plastiques qui ont des eaux usées qui sont rejetées dans les nappes aussi.
Et nous sommes aussi sous les cercles tracés par les avions.
Que les avions, avant d'atterrir, s'ils ont trop de kérosène, ils font des lâchers.
Qui attendent leur tour.
Voilà, il y a plein de choses qui se disent.
Avant d'atterrir à l'aéroport
de
Lyon.
On n'a aucune certitude.
Bref, dans ces petits villages, chacun y va de son hypothèse.
Tous les ans, ils refont du maïs sur du caillou, où il n'y a même pas de terre dans la plaine de l'Ain, donc il faut voir ce qu'ils arrosent. Hein. Y a quand même, moi, je suis toujours dans la nature, à la pêche et tout. C'est dégueulasse, il y a même des fois, je fous le camp tellement ça pue. Hein.
Et certaines hypothèses ne sont pas toutes infondées. Emmanuel Amar, la lanceuse d'alerte, m'a expliqué qu'un groupe d'experts défendait l'idée d'une pollution de l'eau. Et cet été, j'ai aussi lu qu'Hervé Gillet, ingénieur retraité de l'INRA, montre dans une étude que l'implication des pesticides est plausible pour les bébés sans bras du Morbihan. Dans la plupart des suppositions, l'agriculture conventionnelle est en première ligne.
Parce que bon, les 100 bras, c'est peut-être un exemple, mais je pense que les histoires de cancer, elles restent. Il y a quand même des rapports entre, il n'y a pas eu de souci.
Je me suis demandé comment réagissaient les paysans et les paysannes du coin à ces accusations, alors je me suis arrêté devant les fermes pour les écouter.
Le problème, de toute façon, de l'agriculture aujourd'hui, au-delà des bébés à bras, c'est sans bras, c'est quand même de respecter notre travail. Aujourd'hui, on voit des tas d'associations, on est responsable de la mort des abeilles, on n'a plus de coquelicots dans nos blés, on est responsable un peu de tous les maux de la planète. Il y a même de la violence qui arrive sur l'agriculture, il y a des gens qui se font taper dessus dans leur tracteur. Ça, c'est inadmissible, on nourrit le monde. On peut parler aussi du glyphosate sur les fermes, ça devient quasiment plus utilisé, et dans tous les cas dans des conditions et des quantités très restreintes à l'hectare. Et peut-être que les bébés sans bras, peut-être que ça peut être une cause agricole, aujourd'hui personne n'est capable de le dire.
Devant la machine à café de ce gros groupement agricole,
ici, vous êtes à l'ERL de l'Ormet.
Je rencontre aussi
on
Mathieu,
plusieurs types de cultures,
céréalier à la tête de plus de 600 hectares, dont il a fraîchement converti une petite partie en bio.
Depuis que je suis devenu papa il y a 5 ans, ça m'aurait fait bizarre d'avoir un enfant sans bras, quoi. C'est déjà là une grosse prise de conscience pour moi. C'est là qu'on a dit, j'ai dit, fallait. La naissance de mon fils a fait qu'on a arrêté le glyphosate. Hein. Même nous, les premiers en agriculteurs, en disant, c'est pas possible, il faut trouver des solutions déjà à l'alternative de ce produit. Ça a été ça le nerf de la guerre avant le passage en bio, c'était de diminuer au maximum les produits phyto sur l'exploitation. On a réussi à réduire de 40%, mais là c'est compliqué. On n'a pas les résultats attendus si on baisse encore plus les phyto. C'est sûr que le bio engendre plus de boulot que le conventionnel. Aujourd'hui, si en conventionnel, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez réussir à faire du rendement, c'est ce que je voulais pour être économiquement viable, il faut produire, donc il faut utiliser les produits phyto. Ben, c'est en fait c'est tous les gros groupes qui nous gèrent, hein. C'est pas le monde agricole qui décide. Tout ce qui est de la production des produits phyto, nous on ne peut rien gérer, quoi. C'est tout le monde qui. C'est Bayer, Monsanto, tous ces gros groupes qui gèrent le monde. Pour moi, le fond de ma pensée, Bayer, vous savez, ils vendent des produits phyto. Et après, ils vendent les cachets pour vous soigner.
Sur ces jolies petites routes de campagne de l'Ain, la naissance de 8 bébés sans bras en 5 ans a fait remonter d'autres vieilles histoires.
Bonjour. J'ai frappé mes pattes.
Comme celle de Gérard Boinon, paysan à la retraite, que je visite à Saint-Trivier-sur-Moignon.
En 87, j'ai eu d'énormes soucis au niveau de mes vaches laitières. J'ai eu des choses assez bizarres qui se sont produites, puisque j'ai eu à la naissance 50% de mortalité des veaux. J'ai eu 2 veaux à 5 pattes, j'ai eu 1 veau à 2 têtes. Les veaux à 5 pattes étaient vivants, hein. Le veau à 2 têtes était mort, et aussi un autre veau mort, né, c'était un veau sans cuir, un écorché. Donc quand vous faites naître un veau comme ça, et puis que ça arrive, ça vous donne des frissons. Alors à l'époque, moi je m'étais dit, ben, j'ai fait une erreur d'alimentation, qu'est-ce que je leur ai donné? Est-ce qu'ils ont bien tous les oligo-éléments présents? Je me suis posé beaucoup de questions. Mais en 2002, un jour que je suis allé chez le médecin et il y avait une revue dans la salle d'attente qui était Science et Vie, et il y avait un article sur le nuage de Tchernobyl et il nous expliquait comment il était passé sur la France dans la réalité. Il y avait 5 zones rouges en France, la Corse, les Hautes-Alpes, la Dombe, hein, dans l'Ain, là où je suis, le Jura et les Vosges. Donc, et ils expliquaient que le nuage était passé entre le 1er et le 5 mai 1986. Et moi, à ce moment-là, quand je suis rentré à la maison, je suis allé voir mes factures. J'ai regardé quand c'est que j'avais ramassé mon ensilage d'herbe. Et comme par hasard, je l'avais ramassé le 7 juin. Donc, il avait eu le temps de prendre tout le nuage bien comme il faut. J'ai enfermé dans un silo pour y donner à manger à mes bêtes pendant tout l'hiver. Donc, pour moi, ça venait de ça et ça venait pas d'autre chose.
Et du coup, à partir de là, vous dites, c'est le nuage de Tchernobyl.
Ah, on ne peut pas affirmer que telle ou telle chose, c'est ça. Mais quand même, chez moi... C'est 50% de mortalité, 50%, alors que grosso modo, on est entre 1 et 2%, ça n'a rien à voir. Voilà, et c'est cette année-là, quoi, cette année, l'année qui a suivi, pendant que mes vaches étaient gestantes, eh bien, elles ont mangé ça, donc l'embryon qu'elles avaient sur elles, eh bien, a été infecté. Pour moi, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Mais ça, c'est mon intime conviction que je ne peux pas prouver. Voilà.
Il est aujourd'hui trop tard pour vérifier scientifiquement l'impact du nuage de Tchernobyl sur les veaux de Gérard Boinon. Il aurait fallu pour ça analyser les silos et les cadavres dès 1987.
Mon nuage de Tchernobyl, je n'ai pas les preuves scientifiques, mais j'ai une intime conviction. Pour les enfants sans bras ou sans membres, là je ne l'ai pas.
Et je me dis qu'il en sera peut-être de même pour les bébés sans bras. Plus le temps passe, plus on ne pourra avoir que des intimes convictions. Qu'il s'agisse d'une curieuse coïncidence, d'une fontaine empoisonnée, de l'impact des avions, de la centrale voisine ou des épandages de pesticides.
J'ai eu d'autres problèmes. L'année d'avant, en 1984, j'ai traité mon blé avec un pulvérisateur. J'étais sur un tracteur sans cabine. Et à un moment donné, le vent s'est légèrement levé, comme en ce moment, là, vous voyez, le vent, il n'y avait pas de vent, puis d'un seul coup, il s'est levé, donc j'ai été un peu aspergé du produit, et quand j'ai eu fini, j'avais des boutons de partout, sur tout le corps, puis ça allait de plus en plus à me démanger de partout, donc je suis parti à l'hôpital. Je me suis retrouvé avec une urticaire géante intérieur-extérieur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je faisais un œdème de Quick. J'ai l'habitude de dire j'ai eu mon premier joker, puisque j'ai été sauvé parce que je suis parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné. Et que le service d'urgence qui m'a accueilli ont téléphoné au centre antipoison de Lyon. Et ils ont pu commencer le protocole sans attendre le résultat de la prise de sang, ce qui m'a sauvé la vie. C'était du D6 qui est interdit en début des années 2000, fin des années 99, 2000, un truc comme ça. Il a été interdit parce que trop dangereux. J'avais 35 ans à l'époque et je suis devenu impuissant. Donc là, j'y ai vécu dans ma chair depuis toutes ces années. Hein. Ça fait 35 ans que ça est arrivé et j'en souffre encore. J'ai eu deux autres choses qui se sont produites chez moi. C'est-à-dire ça a détruit chez moi deux hormones que le corps produit. L'hormone de la satiété. Et l'hormone qui aide à brûler les graisses. Donc, suite à cet accident chimique, eh bien, je me suis mis à prendre du poids. À prendre du poids tout doucement, régulièrement, jusqu'en 2003 où je me suis retrouvé à 135 kilos. Et quand on est à 135 kilos, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est la crise cardiaque. Bon, j'ai été opéré du cœur. Donc, j'ai perdu 35 kilos, j'étais content. J'étais retombé au quintal en 8 mois d'arrêt de travail. Comme j'avais été malade au niveau cardiaque, eh bien, il m'avait donné des médicaments à prendre tous les jours pendant toute ma vie, c'est-à-dire des statines, des bêta-bloquants, des fluidifiants, etc., etc. Et en 2015, je me suis fait un cancer de la prostate. Voilà où mène l'agriculture chimique industrielle. C'est-à-dire à partir du moment où on a été empoisonné au départ, eh bien, tout s'enchaîne, voilà.
Au moment où je termine cette émission, j'entends à la radio que pour la première fois, une famille d'un enfant né sans bras dans l'Ain a décidé de porter plainte contre X pour mise en danger d'autrui.
Dans un dossier aussi complexe, aussi sensible, nous considérons qu'un juge d'instruction indépendant et impartial.
Elle espère ainsi que Santé publique France relance des enquêtes de terrain.
Conduites par les autorités de santé n'offrent pas les mêmes garanties en termes d'indépendance et d'impartialité qu'un juge d'instruction.
J'ai rappelé Élodie, la maman de Grégory, pour savoir ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit qu'elle avait elle aussi été sollicitée par des avocats, mais qu'elle avait trouvé leur démarche déplacée.
S'ils prennent cette histoire juste pour faire le buzz, pour leur petit cabinet, ça m'intéresse pas.
Emmanuelle Amar, la lanceuse d'alerte du Romera, reviendra sur cette histoire dans un livre à paraître en octobre. Et quant à Gérard Boinon, il garde le sourire grâce aux oiseaux.
J'ai retrouvé une joie de vivre en travaillant avec des mésanges bleus, par exemple, qui est un oiseau extraordinaire. Savoir les transhumer, savoir les faire reproduire, etc. Vous êtes ici dans l'environnement, si vous écoutez, vous entendez les oiseaux qui chantent là, tout autour de la ferme. Eh bien, une mésange bleue, elle est capable de manger jusqu'à 12 500 insectes ravageurs par jour. J'ai mis ça tout doucement en place, j'ai replanté des haies. Des haies composites pour pouvoir accueillir mes oiseaux auxiliaires, mes insectes auxiliaires, pour qu'elles soient présentes sur les parcelles. Alors je suis arrivé à me passer complètement d'insecticides. C'est des collègues de boulot, elles font le boulot à votre place, elles sont jamais en grève, c'est extraordinaire, elles bossent sans qu'on leur demande rien, quoi.
C'était Bébé sans bras, on ne saura pas, avec un point d'interrogation. Un reportage signé Olivier Minot, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Élodie, au docteur Laurin, à Emmanuel Amar, à Gérard Boinon, à Mathieu Fournier, à Alexandre Hyacinthe et à Morgane Large, Camille Richir, c'est notre attaché de production, et Lorenzo Cucchiaro, c'est notre stagiaire.